Nous retrouvons à présent l'émission Parcours présentée par Virginia Crespo.
Bonjour, Canal Académie vous propose aujourd'hui le parcours d'un grand patron, Yvon Gattaz, créateur avec son frère Lucien Gattaz de la société Radial, président du CNPF, Conseil National du Patronat Français donc de 1980 à 1986, c'est l'ancêtre du MEDEF actuel. Yvon Gattaz, bonjour.
Bonjour.
Yvon Gattaz, vous êtes membre de l'Institut, vous avez été président de l'Académie des sciences morales et politiques, c'était en 1999, c'est-à-dire 10 ans après avoir été élu dans la section économie, politique, statistique et finances de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, racontez-nous justement cette élection. Pourquoi, comment êtes-vous entré à l'Académie des sciences morales et politiques? Faites-nous un rapide résumé de la vie, du travail d'Yvon Gattaz à l'Institut.
Écoutez, cette élection est effectivement une surprise, car il n'est pas fréquent de voir un chef d'entreprise, surtout un créateur d'entreprise industrielle, créateur à partir de zéro, entrer sous la coupole. D'ailleurs, mon parrain qui m'a remis mon épée, mon ami et conscrit à l'Imperfide, car il était né la même année que moi, a dit en me remettant mon épée en 89, 90 l'année suivante, Yvon Gattaz, j'ai fait des recherches, dit-il, est le premier, tout premier, créateur d'entreprises industrielles à partir de zéro, à entrer sous la coupole depuis 1635.
Oh, magnifique.
Je ne cache pas ma fierté quand il m'a dit ça. Bon, tout ça pour dire, sans plaisanter, que c'est assez rare qu'un ingénieur qui a un parcours technique, qui crée une entreprise high-tech dans l'électronique avec son frère. Bon, je sais que mon parcours a été un petit peu chahuté par le fait que j'ai écrit quelques livres, ce qui n'est pas très courant, par le fait que j'ai créé quelques associations comme Éthique, une lettre socio-économique, j'ai été président du MEDEF, tout ceci était déjà un parcours un peu atypique, mais l'élection à l'Académie des sciences morales et politiques...
Compléter ce parcours atypique.
C'était une grande surprise, même pour tout vous dire, y compris pour ma famille qui n'en revenait pas. Bon. Alors, comment ça s'est passé? Le président de l'époque, on m'avait demandé de faire une causerie sur l'entreprise. Mon ami Pierre de Calan m'avait dit, venez faire une causerie sur l'entreprise. Et puis, vous savez, on est toujours un peu négligent, une communication, j'avais pas le temps, on verrait bien, etc. Ça traînait quelques années. Puis quand même, un jour, Pierre de Calan me dit, vous êtes pas très courtois vis-à-vis de l'entreprise, venez faire une démarche auprès du président et il verra avec vous comment, à quelle date faire la communication. Alors, je vais donc le voir et il me garde 2 heures. 2 heures d'entretien. Et à la fin, il me dit, il avait le sens de l'humour, il me dit, non, vous ne ferez pas de communication. Alors là, j'avoue que j'ai été très inquiet. Je me suis dit, j'ai dû faire une bêtise, une maladresse, etc. Mais il avait le sens de l'humour, c'était une plaisanterie, bien sûr. Et il me dit assez sèchement, pas de communication. Je lui dis, écoutez, excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps, et le mien aussi. Au revoir, monsieur le bâtonnier, à bientôt. Bien, non, rasseyez-vous. Vous ne ferez pas de communication, mais vous présentez l'Académie. Je lui dis, attendez, me présenter à quoi? Eh bien, un siège de l'Académie des sciences morales et politiques. Je lui dis, attendez, il faut encore qu'il y en ait un disponible et dans ma branche. Justement, il y en a un disponible et dans votre branche, l'économie. Il y a Pierre Massé qui vient de mourir, je n'en savais rien. Je ne savais pas moi-même que Pierre Massé était de l'Académie, c'est vous dire mon ignorance tragique. Vous, vous présentez. Oh, attendez. Permettez-moi d'en parler un peu dans mon entourage. Tu répondais-moi quand même rapidement demain ou après-demain. Bien entendu, mon entourage m'a dit pas question, tu as trop de travail, c'est de la folie. Et comme d'habitude, je suis passé outre. Voilà. Je me suis donc présenté et je fais partie de ce petit club restreint des gens élus la première fois et au premier tour, ce qui a été pour moi une grande satisfaction.
Alors justement, Yvon Gattaz, la philosophie, les intérêts, les enjeux qu'offre à vos yeux, vous, l'homme d'action et d'entreprise, cette élection et cette participation à la vie de l'Institut?
Écoutez, c'est très important, mais c'est même capital, parce que j'ai découvert à l'Institut et à l'Académie des sciences morales et politiques un milieu que j'ignorais complètement. Je trouve que cette Académie des sciences morales et politiques est absolument extraordinaire, car elle est réunie dans des sections totalement différentes, de disciplines différentes, les gens les plus éminents, ce qui nous rend modestes. Parce que on s'aperçoit qu'on a des gens extraordinairement forts dans des domaines où on est incompétent. C'est un club de modestie. En plus, J'ai dit en plaisantant un jour que c'était un CAMR, un club d'admiration mutuelle et réciproque. Un club d'admiration mutuelle et réciproque. Et c'est vrai, je crois que nous sommes tous entraînés à une sorte de modestie d'une part et d'estime vis-à-vis des autres, parce qu'on est surpris par leur qualité, leur connaissance, leur culture extraordinaire et, je dois l'avouer, leur courtoisie. C'est donc un milieu tout à fait exceptionnel que j'avais jamais rencontré dans ma carrière, dans les carrières d'entreprise, vous savez, c'est un peu la compétition permanente, c'est la bataille pour gagner les marchés, c'est la bataille pour faire les nouveaux produits, c'est la bataille de la recherche, de l'innovation, du prix, du délai, de la qualité, c'est la bataille. Ici, il n'y a plus de bataille, puisqu'il n'y a pas d'argent à gagner et il n'y a pas de poste à prendre. Nous sommes sur un pied d'égalité avec des gens de très haute qualité, donc je trouve que c'est un milieu qui m'a apporté énormément et qui continue à m'apporter énormément. Je ne vous cache pas que mon immense satisfaction d'être membre de l'Académie des sciences morales et politiques.
Vous avez prononcé le mot de courtoisie qui s'apparente à celui de politesse et qui nous fait penser que politesse et politique ont la même racine grecque qui est polis, la cité, et qui sous-entend beaucoup de choses.
Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Non mais nous, là, c'est de la politesse à l'état pur, et on va dire que cette courtoisie peut paraître un peu exagérée à des gens qui viennent quelquefois de l'entreprise où la familiarité est assez classique, et on peut considérer que c'est un petit peu distant, voire rétro, mais c'est une courtoisie qui me plaît beaucoup.
Faisons comme dans la fiction, comme dans les films ou les romans, Yvon Gattaz, procédons à un retour en arrière. Le 17 juin 1925, nous nous trouvons à Bourgoin-Jallien, en Isère. Et c'est à ce jour-là que naît le petit Yvon Gattaz, au sein d'une famille nombreuse ?
Non, je suis né au sein d'une famille d'enseignants. Mes grands-parents étaient enseignants, on disait autrefois directeur d'école, c'était bien plus prestigieux, n'est-ce pas ? Mes parents aussi, mon père avait abandonné l'enseignement, car il était un très bon peintre régional, médaille d'or du Salon des Beaux-Arts de Lyon, et il a abandonné son métier d'enseignant pour devenir conservateur de musée, ce qui prouve déjà un certain non-conformisme et un attrait pour les choses artistiques que j'ai peut-être reçu un petit peu en don. Et donc je suis né dans un milieu où on travaillait bien, où il fallait être premier en classe, tout en n'étant pas tout à fait conformiste, vous voyez.
C'est-à-dire
voyez-vous, on avait envie de faire des choses nouvelles, de sortir, on était un peu artiste, un petit peu de la musique, ma tante était professeure de piano, etc. C'était un milieu artistique, sympathique, et tout à fait chaleureux, c'est un milieu de province, vous avez calme et tranquille, et où il fallait travailler beaucoup, il fallait... Les jeunes avaient qu'une chose à faire, être premier en classe. Le reste, il fallait être bien élevé et être premier en classe. Alors, moi, je garde de cette enfance un souvenir tout à fait ému de parents qui nous ont très bien élevés, mon frère et moi. Et nous n'étions que deux frères. Deux frères qui avions un an d'écart. Je suis le second, moi. Et ça nous a beaucoup marqué parce que nous sommes restés toute notre vie extrêmement amis, copains et même à plus tard associés. Et nous avons même épousé deux sœurs. C'est vous dire combien nous étions proches. C'est fortuit. Ça n'était pas calculé. Et alors, il se trouve que mes parents disaient toujours « Mais ces deux frères ont des qualités différentes et sans doute complémentaires. » Nous avions sans doute également des défauts du même type. Et ça nous est resté comme formule. C'est pourquoi, plus tard, avec mon frère, nous sommes dit « Mais cette maxime de nos parents, qualité complémentaire, nous permettrait peut-être de nous associer pour faire à nous deux un très bon chef d'entreprise. » Ce qui n'était pas tout à fait faux. Et c'est pourquoi, bien plus tard, j'avais 27 ans, nous étions ingénieurs tous les deux, d'écoles différentes, et c'est pourquoi nous avons créé une entreprise industrielle dans un fonds de cour du 11e arrondissement, parce que nous avions une bonne complémentarité. Lui était plutôt un grand ingénieur technicien, chercheur très remarquable, et puis moi je m'occupais, disons, du reste, commercial, finance, personnel, et même un peu études.
Alors, avant ces 27 ans, avant la décision de cette vocation, de cette envie de créer, d'entreprendre, comment la vie s'est-elle écoulée à Bourgoin-Jallien avec les études, par exemple ?
Oui, vous savez, je dirais presque que ça a été une vie d'une certaine banalité provinciale, n'est-ce pas ? Pas de sortie, pas de cinéma, pas de radio ni télévision, bien entendu, c'était pas l'époque. Donc, c'était des vies de province d'un calme incroyable, même qui paraîtrait sans doute une vie ennuyeuse aux jeunes d'aujourd'hui. Alors, on faisait du sport, comme tout le monde, enfin, bon, on faisait du foot, on faisait, il y avait une petite piscine qui venait d'être construite, on allait beaucoup à la piscine, on faisait un peu de tennis, donc on faisait du sport avec notre collège. Et puis, on travaillait beaucoup au collège, et c'est vrai, on était une bande de copains, il faut dire ce qui est, comme nous étions plutôt les bons élèves, les camarades se regroupaient un peu chez nous pour faire les devoirs et préparer les compositions, vous voyez. On avait déjà un petit rôle d'entraînement, mais c'était tout à fait sympathique. Et puis là, comme nous étions près de la montagne, on faisait de grandes balades en montagne. Mon frère, qui était un bien meilleur sportif que moi, un montagnard, nous entraînait faire un petit peu de pour au cours du vrai ski. C'était le début du ski, mais surtout de la marche en montagne. On allait se baigner dans des lacs de montagne qui étaient plus ou moins gelés. Enfin, on faisait des choses un petit peu acrobatiques qui nous ont laissé un très bon souvenir. Soit dans le Vercors, dans la Chartreuse qui est pas trop loin, soit dans l'Oisans, vous voyez. Et c'est pourquoi beaucoup de nos membres de nos familles sont restés là-bas. D'ailleurs, j'ai un fils qui est professeur du côté de Grenoble et qui est tous les week-ends dans la montagne parce qu'il adore ça. Et j'ai deux neveux qui sont restés à Voiron et qui sont souvent dans la montagne aussi.
Et alors, cet entourage artistique, le père peintre, la tante aussi musicienne,
oui,
la tante musicienne. Alors, qu'est-ce que ses aînés vous ont légué? Quelles sont des phrases fortes qui vous reviennent en mémoire, qu'ils vous ont transmis en héritage?
Vous savez, eh bien, je crois que l'héritage, c'est de, on ne pouvait pas consacrer sa vie uniquement à des gains matériels dus à sa vie professionnelle. Qu'il y avait quand même une certaine distinction à faire entre son gagne-pain, qui doit être le plus agréable possible, bien entendu. Il ne faut pas faire un métier qu'on n'aime pas, c'est affreux, mais qu'on peut avoir quand même quelques hobbies, voire quelques passions. Je vous dis, mon père étant enseignant, ou après conservateur de musée, grattait un petit peu le violon, écrivait des poèmes sur un grand cahier qu'on a trouvé après sa mort. Et tout ceci lui remplissait sa vie, vous voyez. On avait l'impression de personnes heureuses de leur vie, qui semblaient même avoir une vie un petit peu secrète, une vie un petit peu personnelle, artistique, mais qui en étaient très heureux. Si bien que c'était une famille à la fois modeste et heureuse. Et bien ça, ce bonheur, on ne le rencontre pas dans toutes les familles. Et en particulier, on n'avait pas le drame de certaines grandes familles qu'on voit dans tous les bons films de cinéma.
Donc la famille, les racines sont des notions importantes pour vous?
Très importantes. Vous voyez, même maintenant, j'ai créé depuis 10 ans l'association ASMEP des entreprises patrimoniales. Nous apercevons que ces moyennes entreprises patrimoniales ont toutes un enracinement provincial extrêmement fort, qui est une de leurs caractéristiques principales et peut-être une de leurs qualités de performance. Je crois que l'enracinement provincial, c'est une qualité essentielle, aussi bien pour les hommes, pour les familles, même pour les entreprises.
Vous avez souhaité écouter, lors de nos pauses musicales, des extraits d'œuvres de Beethoven.
Oui.
Pourquoi cette passion pour Beethoven?
Parce que moi-même, j'ai fait un tout petit peu de musique étant jeune, puisque nos parents nous avaient inscrits l'harmonie municipale de Bourgoin-Jallieu, et qu'on a joué un peu de musique d'harmonie, vous voyez, bon, en étant de tout petits musiciens, puisqu'après on a arrêté à cause de nos études, et il se trouve qu'on a joué un peu de Beethoven.
Alors nous allons, grâce à vous, écouter un extrait de la symphonie numéro 6 en fa majeur de Beethoven, celle que l'on appelle la pastorale, interprétée par le Philharmonique de Berlin sous la direction de Karajan. Canal Academy, la première web radio francophone, a le plaisir de vous proposer le parcours d'Yvan Gattaz, ingénieur de l'École Centrale de Paris, créateur d'une entreprise industrielle, Radial, président du CNPF de 1981 à 1986, membre de l'Institut depuis l'année 1989. Yvan Gattaz, nous évoquions les valeurs familiales. Sans commettre d'indiscrétion, vous avez vous-même fondé une famille.
Oui, bien entendu. J'ai 3 enfants, une fille et 2 garçons, et j'ai 7 petits-enfants qui me donnent beaucoup de satisfaction parce que j'aime beaucoup les jeunes, comme je l'ai toujours prouvé, puisque j'ai créé une association qui s'appelle Jeunesse et Entreprise. Je dis en plaisantant comme Jean Noël, quand on me demande mais pourquoi vous aimez tant les jeunes, je dis je vais vous faire une confidence, je l'ai été moi-même.
C'est très joli. Quelles sont les valeurs prioritaires qu'aujourd'hui vous souhaitez transmettre à vos jeunes et à la jeunesse en général?
Écoutez, je crois que la valeur qui risque de s'étioler un peu dans la vie moderne, c'est l'enthousiasme, la passion. Et on ne fait rien sans passion, on ne fait rien sans y croire. Vous savez, il faut espérer, contrairement à ce qu'on a fait dire stupidement à Guillaume d'Ange, d'ailleurs c'est jamais lui qui a dit cette phrase, elle est apocryphe, je soupçonne qu'elle a été inventée par l'entourage de Pierre de Coubertin, qui a fait dire à Guillaume d'Ange « point n'est besoin d'espérer pour entreprendre », phrase superbe et complètement fausse. Il est indispensable d'espérer pour entreprendre. Je ne connais personne qui a entrepris sans avoir espéré. J'ai jamais rencontré ça dans mon existence et je crois que ça n'existera jamais. Et c'est cet espoir qu'il faut transmettre aux jeunes. Espérez, gardez la passion, gardez l'endroit et vous arriverez. J'essaye de communiquer moi cette flamme à tous les jeunes, n'est-ce pas ? D'abord pour la création d'entreprises nouvelles dont je m'occupe depuis des années et des années, et puis même pour les métiers tout court, pour la vie professionnelle, et dans notre association Jeunesse Entreprise, que j'ai créée fin 86, donc vous voyez, ça fait déjà 19 ans, voilà une association qui essaye de mettre en contact les entreprises et le milieu des jeunes. Quand je dis le milieu des jeunes, c'est les jeunes eux-mêmes, ce sont les enseignants et ce sont les parents d'élèves, ce qu'on pourrait appeler le milieu jeune. Et alors que ces deux milieux se sont ignorés superbement pendant des décennies, sans hostilité particulière, mais vous savez, il y a des cas où l'indifférence est pire que l'hostilité. Eh bien, il y avait un fossé qui s'était créé. J'essaye, moi, puisque je suis à la fois fils d'enseignant et créateur d'entreprise, et chef d'entreprise, j'essaye de réconcilier ces deux milieux parfaitement honorables, le milieu des jeunes et le milieu des entreprises. Les deux sont honorables et magnifiques, mais pourquoi se connaissent-ils pas? Pourquoi se méfient-ils l'un de l'autre? Alors, je me bats là-dessus depuis des années et des années, avec un succès variable, il faut bien le dire, ça serait trop beau si on avait tout gagné. Mais depuis 19 ans, cette association a fait un travail considérable et nous essayons d'inculquer à ces jeunes ces valeurs, ce que j'appellerais d'entreprendre. D'entreprendre au sens large, c'est pas forcément la création d'une entreprise, mais l'esprit d'entreprendre, d'avoir des initiatives et des responsabilités, ça c'est ça qu'il faut inculquer aux jeunes. Et ces jeunes qui acceptent, plus qu'on le croit, d'ailleurs par bonheur, car on parle quelquefois des rares mauvais jeunes et exceptionnellement des innombrables bons jeunes, ce qui est dommage, n'est-ce pas, statistiquement, n'est-ce pas, car il y a d'innombrables bons jeunes, même d'excellents jeunes, nous les voyons tous les jours. Eh bien, ces jeunes, si on leur communique un petit peu la flamme, ils la prennent bien volontiers, n'est-ce pas. Et vous voyez le travail que nous avons fait, par exemple, pour relancer dans ce pays la création d'entreprises, n'est-ce pas. J'ai écrit ce livre « Les hommes en gris » que j'aperçois devant vous et que j'avais écrit, qui est sorti en janvier 1970, il y a déjà bien longtemps, et qui m'a valu ce fameux titre un petit peu curieux de père de la natalité des entreprises françaises. Pas. Mais j'en suis très fier. Quand on me demande « Vous êtes toujours le père de la natalité ?» Je dis oui, je dis oui. Et j'ai vu avec plaisir que dans une revue récente, on m'avait donné encore cette qualification bien ancienne et ça m'a fait le plus grand plaisir. Eh bien, j'ai donc essayé d'être parmi ceux qui relançaient en France cette création d'entreprise, qui était tombée à zéro, on ne sait pas très bien pourquoi. C'était un pays où il était bon d'avoir des diplômes et de suivre une voie royale ou de l'administration ou de très grandes entreprises, et on laissait cette création d'entreprise à ceux qui n'avaient pas de diplôme, les autodidactes, pour qui c'était la seule méthode d'ascension sociale possible. Parfaitement stupide, quoi. Moi, je suis très content que les autodidactes aient cette planche de salut, qui remplissent d'ailleurs magnifiquement. Les meilleures entreprises sont souvent créées par des autodidactes. Mais je suis heureux également que nos diplômés ne tombent pas dans le snobisme de l'entreprise existante et des grandes fonctions stratégiques dès le départ, et commencent en étant artisans de fond de cours, montrent qu'ils sont innovateurs, grandissent et montrent qu'ils sont de vrais pratiques. Mais pas-t-on, nous sommes un certain nombre à donner l'exemple dans ce domaine.
Reprenons, Yvon Gattaz, votre parcours biographique sur les ondes de Canal Académie. Vous avez 15 ans lorsque la guerre éclate. Que se passe-t-il? Comment vous et votre famille vivez ces moments difficiles?
Alors écoutez, dans l'Isère, ça a été très dur. Vous savez que nous étions quand même pas loin de Grenoble et du Vercors. Alors, bon, on a vécu calfeutré. On a eu les Italiens, puis les Allemands comme forte occupation. Et puis on a eu, comme toute la France, la pénurie de denrées alimentaires, les restrictions. Bon, là, nous n'avons pas plus souffert que d'autres, n'exagérons rien. Ce qui s'est passé de plus dramatique pour nous, c'est en 1944, n'est-ce pas, quand il a fallu, quand il y a eu la libération, mon frère était parti dans les forces françaises libres, les FFI, il a été blessé gravement, très gravement, d'ailleurs, il a eu la médaille militaire à l'ordre de l'armée, et il a été fait prisonnier, il s'est évadé, on l'a tiré dessus, enfin bon, des histoires assez dramatiques, et nous avons perdu une année, enfin moi j'ai perdu une année, lui, il s'est plus facilement rattrapé aux branches, il est rentré directement à l'Institut électrotechnique de Grenoble, moi j'étais en maths sup, dont la classe a été supprimée, parce que les Allemands avaient été sautés, bon, proximité du lycée, ils avaient éveillé le lycée, pris un de nos camarades au hasard, l'avaient fusillé, enfin oui, des choses tout à fait dramatiques, l'année a été perdue, le lycée a été fermé, et il y avait une année de perdu. Alors moi, je me suis au retour l'année suivante, à la rentrée suivante, je me suis présenté dans un autre lycée à Lyon, au lycée du Parc, qui a bien voulu me prendre directement en maths P, où j'ai fait une petite tentative, un essai, voilà. Voilà pourquoi j'ai fait maths sup et maths P en une seule année, et que la chance des concours a fait le reste. Je me suis présenté à l'école centrale, j'ai été reçu la première fois par bonheur, peut-être par miracle, et j'y suis entré. Voilà. Donc j'ai rattrapé un peu le temps perdu à cause de la guerre par la chance des concours.
Alors, par rapport justement à ce contexte de guerre que nous évoquons, est-ce que vous partagez la vision du philosophe Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme?
Bien sûr, sur les guerres, vous savez, c'est quand même épouvantable de voir que nous sommes arrivés à ce degré de sophistication technique et technologique et qu'on n'a pas pu régler ce problème de l'homme qui est un loup pour l'homme. Et c'est de la haute philosophie qui dépasse un petit peu les qualités du chef d'entreprise, là. Mais enfin, je trouve ça assez dramatique à titre personnel.
Justement, où est-ce que vous placez votre confiance? En l'homme, uniquement en l'homme, ou dans une transcendance?
Moi, j'ai beaucoup plus confiance en l'homme que dans les institutions. Je n'ai pas confiance dans les institutions, quelles qu'elles soient. Il en faut. C'est une réglementation, c'est un cadre, mais on s'aperçoit que dans ce cadre, la confiance va à l'homme. Quel que soit ce cadre, qu'il soit administratif, étatique, entrepreneurial, l'entreprise a des règles. L'entreprise crée un cadre, l'entreprise exige une certaine discipline, d'avoir un travail coordonné, mais finalement, tout dépend, in fine, de la qualité des hommes. Donc moi, je fais confiance aux hommes, j'ai toujours fait confiance aux hommes, mais ça m'a pas trop mal réussi. Et vous savez, moi, je me suis rendu compte dans ma longue carrière d'entreprise que lorsqu'on fait confiance dans les gens, quels qu'ils soient, eh bien, on a très souvent satisfaction, car souvent on dit, est-ce que cette personne fera l'affaire à tel poste? Est-ce qu'il est capable de remplir telle fonction? Ouh, ça nous paraît juste. Ouh, il n'a pas les diplômes. Ouh, il n'a peut-être pas le caractère. Mis en position, cet homme-là, ce garçon-là ou cette fille, mis en position, on s'aperçoit qu'il prend les responsabilités et les initiatives qu'il faut, à la surprise de tous. Combien de fois avons-nous constaté, avec une immense surprise, que des personnes qu'on pensait un peu, comme on dit, juste pour le poste, avaient tout à fait l'envergure qu'il fallait pour le remplir pleinement?
Yvon Gattaz, que pensez-vous de ces quelques mots? Par exemple, les grains et les fruits qu'engendre la terre ont été créés pour les animaux. les animaux pour l'homme, le cheval pour le porter, le bœuf pour labourer, le chien pour la chasse ou la garde. L'homme lui-même est né pour contempler le monde et vivre en accord avec lui. C'est Cicéron qui parlait ainsi, il y a quand même quelques siècles, qui nous sépare de lui. Alors vous, un homme de l'action, qu'évoque l'homme de l'action, du faire bien et vite, hein, vous nous l'avez appris, faire bien et vite.
Ma formule personnelle, c'est effectivement gravée dans mon bureau et encadrée vite et bien.
Vite et bien.
C'est toujours ma formule.
Alors justement, Cicéron, ces phrases résonnent en vous comment ? Qu'évoque en vous le mot contemplation ?
Écoutez, je ne crois pas que l'homme doive rester un contemplatif. Bon, il y a des ordres réguliers, des ordres séculiers. Moi, je sais bien qu'il faut des moines. Dans mon pays natal, il y a le couvent de la Grande Chartreuse pour lequel j'ai une immense admiration, ainsi que pour les pères chartreux qui sont retirés, mais sont en tout petit nombre. Et il nous faut des gens qui prient, je suis sûr, mais si toute la France priait sans rien faire, ça serait assez dramatique. Je crois qu'il faut des hommes d'action. Je crois que la contemplation est une chose, mais ne tombons pas dans la poésie larmoyante de Lamartine, n'est-ce pas ? Je pense pas qu'il faille pour contempler tout le temps. Non, moi je crois qu'il faut des hommes d'action. Alors, on croit toujours que les hommes d'action ne sont pas des hommes de réflexion. Et je crois que c'est là l'erreur, n'est-ce pas ? Je crois que c'est là l'erreur. Moi je me rends compte que la plupart des hommes d'action ne se jettent pas sur les murs bêtement. Très souvent, les hommes d'action sont des hommes de réflexion. Alors, il faut mettre la réflexion avant l'action. Mais il ne faut pas que cette réflexion soit éternelle. Souvent, la réflexion est un prétexte à ne pas agir. Et ça m'inquiète beaucoup. Et quand je vois quelqu'un qui me dit « Moi, monsieur, je suis un homme de réflexion », je commence à me méfier. Car sa réflexion, au lieu de durer un jour ou deux, elle dure des décennies. Et il n'agit pas. Il faut limiter sa réflexion au minimum et tout de suite passer à l'action. Un exemple très rapide, quand j'ai créé l'association Jeunesse et Entreprise avec mon délégué général Gilbert Yos, mon ami fondateur Paul Simonet, nous avons dit nous allons commencer par publier quelques livres sur la situation des jeunes et de l'entreprise. Nous avons écrit 6 livres qui sont des guides, c'est pas avec ces livres que nous aurons le prix Nobel de littérature, ce sont des bons guides sérieux. Nous voulions démontrer que nous abordions ce problème des liens entre les entreprises et les jeunes, avec une profonde réflexion. Nous l'avons fait, nous l'avons prouvé. Et quand les 6 livres ont été achevés, assez rapidement d'ailleurs, nous avons dit maintenant nous passons à l'action, c'est terminé, je ne veux plus qu'on réfléchisse de façon stratégique à perdre notre temps, comme les moines de Byzance, à nous réunir, quelle stratégie allons-nous redéfinir tous les matins ? Non, elle est fixée, on fonce, on y va. Donc la réflexion, oui, mais la réflexion limitée, et surtout l'action, l'action, l'action.
Alors justement, par rapport à cette harmonie action-réflexion, vous avez dicté vos premières observations dans l'obscurité à la suite d'un accident de l'œil qui vous a privé donc pendant de longues semaines de l'action dont vous avez tellement besoin pour entreprendre. Et donc, vous avez jeté sur le papier, non pas jeté sur le papier, vous avez dicté sur les cassettes les premiers mots des hommes en grille. Paru donc en quelle année ?
Chez Lafon, en janvier 70, le tout premier livre sur la création d'entreprise. Tout premier livre. Il n'avait jamais été écrit un livre sur la création d'entreprise, car cette création d'entreprise, disons la vérité, n'intéressait personne. Personne ne se posait le problème. Personne ne se demandait qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, et encore moins comment naît une entreprise. On se demandait si elle n'était pas apportée par les cigognes ou si elle ne naissait pas dans les choux. Ça n'avait aucune importance. Et j'ai essayé d'expliquer comment naissait une entreprise par la volonté d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Et c'est cette naissance clandestine, car en général elle est clandestine, qu'on confond avec la noble parthénogenèse d'un grand groupe qui crée une filiale dans une province avec les machines, la belle usine et un directeur bien appointé. Ça n'est pas une création ex nihilo, ça. C'est de la parthénogenèse. Et c'est pas ça, les créations. La création d'entreprise, elle est clandestine, humble, misérable, dans un fond de cour, par l'initiative, l'imagination et la ténacité d'un homme. Et ça, on en a, par bonheur, beaucoup maintenant, et de gens, de jeunes, très imaginatifs, qui trouvent des créneaux, produits marchés, qui sont porteurs. porteurs d'espoir, porteurs d'avenir, et qui réussissent. Et rien qu'autour de moi, j'en connais des centaines. Moi-même, j'ai poussé quelques dizaines, voire quelques centaines de jeunes à créer des entreprises. Et si j'ose dire, nous avons peu de faillites, ce qui prouve que ces garçons avaient du talent.
Et bien maintenant, nous allons nous diriger vers la création, la force créatrice de Ludwig van Beethoven. Nous allons écouter, grâce à vous, Yvon Cataz, un extrait de sa 9e symphonie en ré mineur, opus 125. Yvon Cataz, membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques, est aujourd'hui l'invité de votre émission Parcours sur Canal Académie, la première web radio francophone. Yvon Cataz, avant notre pause musicale, vous vous exprimiez sur votre conception du rôle de l'ingénieur. Dans votre livre « Les hommes en gris », vous écrivez, page 156, « Le jeune ingénieur a souvent du sang dans les veines. Il est dommage de ne pas utiliser son tempérament. Les Américains, toujours, eux, ont découvert un mot nouveau, l'agressivité, qui semble bien adaptée à la concurrence commerciale aiguë. On est passé du dynamisme à l'agressivité. Bientôt, ce sera peut-être la hargne en espérant qu'on s'arrêtera là. Or, cette agressivité, qui existe plus ou moins chez tout individu, surtout s'il est jeune, doit pouvoir être utilisée aussi bien à créer qu'à détruire. Au lieu de laisser exploser cette disposition naturelle qui n'arrive pas à se refouler complètement en l'absence de guerre, dans des conflits de toutes sortes dont on a des exemples permanents dans nos journaux télévisés, il faudrait peut-être beaucoup mieux la canaliser au profit de l'industrie qui en a bien besoin. Inutile alors de chercher des bagarres avec son voisin de palier. Il suffira au jeune ingénieur de chercher à surmonter les difficultés techniques, à vaincre la résistance des clients, à entraîner une équipe avec lui. Voilà des signes de vitalité qui pousse alors l'ingénieur, plus tout à fait débutant, à tenter sa propre chance dans l'industrie en créant du neuf. Alors, les philosophes de mauvais augure auront tort qui prétendent que les guerres sont un exutoire aussi indispensable à l'humanité que les luttes autodestructrices et sélectives des animaux sauvages, comme d'autres voulaient croire avant le DTT, que les puces étaient utiles pour occuper les chiens. Tout est dit là. Et c'est vraiment le rôle de la création dans la cité. On le disait tout à l'heure. Politesse, politique, la même racine, tout se rejoint, tout se regroupe, mais il faut la volonté.
Tout se regroupe. Canaliser le dynamisme, utiliser le dynamisme des hommes, le potentiel qui existe dans chaque individu.
Alors comment faire? Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que les hommes en gris que vous définissez, les ingénieurs, les cadres de l'industrie, gris par le costume, par le titre, le rôle effacé qu'ils jouent dans les vies politiques, je vous cite, hein, Yvon Cataz, et artistique, hein, comme par l'ignorance totale du public à leur égard, pourront-ils retrouver en eux-mêmes l'énergie, l'ambition, la foi nécessaire à créer de nouvelles entreprises industrielles? Vous écriviez ces mots en 1970. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport à nos ingénieurs en France en 2005?
Écoutez, il y a quand même des progrès considérables. D'abord, il y a eu entre-temps, malheureusement, mai 68. Mai 68, qui a peut-être été une révolution politique, sûrement une révolution sociale, a été tout sauf une révolution économique. Car la grève sous les pavés, l'interdit d'interdire, tout ceci n'a rien à voir avec l'économie. Et le pire, c'est que on a vilipendé les patrons et qu'après en 69, il n'y a eu aucune création d'entreprise. Autrement dit, j'avais commencé à remonter la pente avec mon livre Les Hommes en gris, et puis faut bien reconnaître que justement c'était pour réaction à cette période de 68 qui avait été catastrophique. Et c'est justement pour remonter cette pente qu'en 69 j'avais écrit ce livre. Alors depuis 69, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les créations d'entreprises augmentent sans arrêt. Nous avons créé en France l'année dernière, en 2004, 324 000 entreprises. Ce qu'on peut regretter, c'est que la plupart de ces entreprises sont des entreprises sans salariés. C'est des gens qui se mettent à leur compte J'écris d'ailleurs ce pétrole en conte, moi, C-O-N-T-E, parce que c'est un rêve, n'est-ce pas? Bon. Alors, des gens qui se mettent à leur compte, il faudrait qu'ils créent plutôt des entreprises de croissance, si j'ose dire, qui ne restent pas des entreprises naines. C'est un peu ma bataille actuelle. Je fais un prosélytisme intense auprès des jeunes. Créez donc des entreprises de croissance. Mais je leur dis, vous ne vous rendez pas compte de la différence entre deux toutes petites entreprises, une qui est naine et une qui est enfant. Elles ont la même taille, le même poids, mais elles sont morphologiquement différentes. Est-ce que vous confondriez un gros chat et un petit tigre? Et je suis en train de s'aimer en ce moment en leur disant, créez donc des petits tigres, c'est-à-dire des entreprises qui ne resteront pas naines, mais qui vont grandir pour qu'on fasse des... Ces TPE, comme on dit maintenant, ces toutes petites entreprises, deviennent des PE, des petites entreprises, voire des ME, des moyennes entreprises, qui sont à la fois innovatrices, exportatrices et employeuses, ce qui est important en ce moment, compte tenu de la situation de l'emploi dans notre pays.
Toujours pour vous citer, Yvon Gattaz, vous écrivez « Évidemment, il peut exister encore, là nous parlons du patronat des dirigeants, bien qu'il y en ait de moins en moins, quelques dirigeants pour qui le profit personnel reste le seul but de leur activité professionnelle. Ce sont ceux que l'on appelle justement les profiteurs. Mais nous n'avons pas à être inquiets à leur sujet, car leurs objectifs restreints ne permettent jamais un grand développement de leur entreprise, qui reste souvent artisanale. Ici, la morale est bien payante, bien que Bergson ait jugé que l'humanité a le corps trop grand pour son âme, c'est-à-dire que la morale ne suit jamais la technique. Mais vous n'êtes pas tout à fait d'accord là-dessus. Vous êtes d'un tempérament optimiste.
Plutôt optimiste. On a dit que j'étais un optimiste irréductible, certains ont même dit un optimiste pathologique, parce que j'étais optimiste dans des périodes assez dramatiques de l'histoire de France, en particulier dans la période 81-86, quand les socialo-communistes étaient au pouvoir et au début, voulaient terrasser l'entreprise française. Après, ils ont mis de l'eau dans leur vin et on peut dire que nous sommes arrivés à sauver l'essentiel. Mais même dans ces périodes noirâtres, n'est-ce pas, il fallait garder le moral et surtout garder l'optimisme.
Alors, de période noirâtre en période noirâtre, alors l'idée, vous écrivez, l'idée simpliste qui fait du chef d'entreprise un exploiteur du prolétariat n'est plus qu'un souvenir des temps révolus. Est-ce que vous le pensez réellement aujourd'hui, Yvon Gattaz, avec les affaires, les scandales, la fracture sociale, les délocalisations quelquefois aberrantes que l'on propose, toutes ces catégories sociales qui semblent ne plus vivre sur la même planète, qui donc ne peuvent plus communiquer, échanger et attendre réciproquement ce que l'une peut donner à l'autre.
Écoutez, bien franchement, j'en ai beaucoup parlé avec mon ami Octave Gélinier, qui était un peu le pape de la morale de l'entreprise, et avec qui j'avais créé ce fameux mouvement éthique en 1975. Et nous n'avions pas mis ce sigle éthique par hasard. Entreprise de taille humaine, industrielle et commerciale, ça n'était pas fortuit, vous en doutez. Nous voulions prôner une morale, une éthique de l'entreprise. Nous avions mis le H de la lettre éthique, homme, en grand par rapport aux autres lettres, parce que nous voulions prôner l'humain, plus que le social et encore plus que le syndical, l'humain. Voilà nos grands objectifs, l'éthique et l'humain. Eh bien, je crois que nous sommes partiellement arrivés. Et je vais vous surprendre, mais je crois que l'entreprise dans le monde est beaucoup plus éthique et morale aujourd'hui qu'elle était il y a 50 ans. On parle des scandales. Ils sont plus importants, puisque maintenant on traite des milliards ou des dizaines de milliards plus facilement qu'autrefois on traitait les millions. Donc, ils n'ont pas la même importance. C'est plus facile à faire, ces scandales maintenant, avec les problèmes boursiers, les échanges financiers. Bon, il y a toujours eu, dans le monde, un pourcentage de crapules que je crois constant. Enfin, d'ailleurs, dans toutes les catégories professionnelles. Et j'ai même la faiblesse de croire qu'il n'y en a pas plus chez les chefs d'entreprise que dans d'autres professions. Mais on en parle plus. Parce que ça n'a pas la même dimension, ça n'a pas les mêmes responsabilités. C'est certain que lorsqu'on ferme des usines ou qu'il y a des scandales, mais tout le monde parle de ces scandales, on ne parle que d'Enron et de Parmalat, c'est bien vrai. Et on va en parler pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans. On ne parle pas des dizaines de milliers d'entreprises familiales, conviviales, où les patrons s'occupent beaucoup de leurs salariés et où les salariés sont contents de leurs patrons. Quand on demande, tous les sondages le prouvent, monsieur le salarié, que pensez-vous des patrons en général? Oh, pas grand bien. Et de votre patron? Ah, alors lui, il est gentil. Alors lui, il est sympathique. Ah, lui, il s'occupe de tout. Réponse générale. Nous avons fait ce sondage 10 fois, 20 fois, 30 fois. Donc ça prouve qu'il y a une perception un peu truquée de l'ensemble du monde. Moi, je crois qu'en général, les salariés sont assez bien traités dans les entreprises aujourd'hui et que par bonheur, les chefs d'entreprise, les cadres, les responsables s'occupent beaucoup des problèmes humains. Ils sont rapprochés des hommes. N'est-ce pas ? Avant, il y avait une immense distance. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qui exclut d'ailleurs un peu les syndicats. Pourquoi les syndicats se sentent marginalisés ? C'est qu'honnêtement, on n'a plus besoin d'eux. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, il y a un dialogue qui est en train de s'instaurer entre des salariés très conscients, qui comprennent très bien l'économie, qui comprennent très bien les impératifs de l'entreprise, ce qui est nécessaire à la réussite de l'entreprise et à son expansion, et des chefs d'entreprise qui ont enfin compris que la vraie richesse, c'est les hommes, et que donc il faut se rapprocher d'eux. Eh bien, si ce rapprochement se fait, comme je le vois, comme je le constate, ça exclut des intermédiaires qui ont été très utiles au XIXe siècle, où ils défendaient des ouvriers analphabètes qui étaient oppressés par les nouveaux chefs d'entreprise qui avaient d'autres soucis que de s'occuper des hommes, malheureusement. Et donc ça a été des intermédiaires à l'époque courageux et bien nécessaires. Aujourd'hui, leur rôle est plus que ténu et ils se sentent marginalisés. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que le plus grand progrès social qui a été fait depuis la sécurité sociale, c'est les horaires variables. Les horaires variables ont été proposés par des patrons contre tous les syndicats français. Donc le plus grand progrès social, le plus récent, a été fait par les chefs d'entreprise contre les syndicats. Les salariés ne l'ont pas oublié.
Nous retournons grâce à vous, Yvon Gattaz, vers la musique de Ludwig van Beethoven avec un autre extrait de sa symphonie numéro 9 en ré mineur, opus 125. Canal Académie vous propose aujourd'hui le parcours d'un grand patron français, Yvon Gattaz, co-créateur en 1952 de la société Radial, président du CNPF de 1981 à 1986, c'est-à-dire du Conseil national du patronat français, l'ancêtre du MEDEF, et auteur de plusieurs ouvrages, dont Les hommes en gris. Alors, Yvon Gattaz, pourriez-vous nous rappeler brièvement quel était l'objectif que vous entrepreniez dans l'écriture de chacun de ces ouvrages? Alors, Les hommes en gris, par exemple.
Alors, Les hommes en gris se situe à l'époque où il n'y avait plus ou pas de création d'entreprise en France. Je rappelle qu'en 69 est la seule année où il n'y a pas eu de création d'entreprise en France à la suite des événements de 68. J'avais donc été scandalisé, moi qui avais créé avec mon frère en 1952 une entreprise dans l'enthousiasme et la passion et la réussite. J'ai donc voulu écrire un livre témoignage pour pousser les jeunes à créer à nouveau des entreprises en leur disant c'est un risque qui vaut la peine d'être couru, vous verrez c'est le métier le plus passionnant de la terre, allez-y, créez votre entreprise, cherchez des produits ou des créneaux nouveaux, des services nouveaux, ça réussit, vous verrez, et ça a assez bien réussi.
Ensuite, vous nous annoncez la fin des patrons.
Alors après, c'est un livre moins optimiste que j'ai écrit 10 ans plus tard. J'avais créé entre-temps une lettre socio-économique, Les Quatre Vérités, avec mes amis Drancourt, Géligné et Plassard, puis le mouvement éthique en 75, avec le même Géligné et 25 chefs d'entreprise, et j'avais essayé de lancer ce mouvement des moyennes entreprises pour voir ce qu'on pouvait faire pour changer les entreprises. Et j'avais écrit ce livre, La fin des patrons, pour montrer que c'était la fin des mauvais patrons et que c'était l'avènement des bons nouveaux patrons. Si vous voulez, en deux mots, il y avait eu d'abord l'ère des techniciens, les patrons étaient techniciens. Tout de suite après la guerre, il y avait eu l'ère des patrons managers qui déléguaient la technique. Et j'ai lancé l'idée d'une troisième race de patrons dans ce livre, qui étaient des patrons animateurs, au sens large du terme, de l'âme, n'est-ce pas, animateurs, et qui déléguaient à la fois la technique et la gestion, mais s'occupaient de l'animation à l'intérieur et à l'extérieur, des hommes de l'entreprise, des clients, des fournisseurs de l'entreprise, l'animation au sens propre.
Et ces patrons sont là maintenant.
Voilà.
Ensuite, les patrons
reviennent.
Les patrons reviennent.
Alors ça, c'est après mon mandat de président du CNPF. Après la fin des patrons, je voulais montrer un peu plus d'optimisme. Et j'ai mis, après leur fin, ils reviennent. On peut mettre le retour des patrons si on avait voulu mettre un substantif. J'ai mis volontairement un verbe, pensant que c'était plus dynamique. Les patrons reviennent. Et c'était les patrons qui revenaient. Je raconte dans ce livre, de façon humoristique, c'est dans ce livre que j'ai lancé l'humour dans le sérieux. Et mes fameux gattazismes, vous savez, qui font rire certains et froncer des sourcils à d'autres, n'est-ce pas ? Les gattazismes sont en fait des plaisanteries profondes ou prétendues telles que je pense profondes, c'est-à-dire exprimer une pensée profonde sous une forme un peu attrayante, n'est-ce pas? Et alors voilà, alors c'est là-dedans qu'il y a beaucoup de gattazisme dans ce livre. Les patrons reviennent, dont le sommaire final s'appelle d'ailleurs La légende des sigles, parce qu'il y a beaucoup de sigles, un peu abscons, et c'est un livre amusant qui raconte de façon amusante, je le répète, la vie à l'intérieur du CNPF, mais quand même ce que nous faisons, les responsabilités que nous avions et qui étaient des responsabilités nationales importantes.
Voilà, vous insistez ensuite sur le modèle français.
Alors le modèle français, je l'ai écrit en 93, c'était pour montrer que les Français, le modèle français, je le critique un peu, c'est pour montrer qu'il n'existe pas ce vrai modèle français dont on a abusé, c'est un peu un snobisme, mais que les Français ont quand même des ressources, car ils sont les plus laxistes dans le bien-être, mais ils peuvent être les plus acharnés dans la difficulté. Donc, il faut que nos chefs nous disent remonter les manches et non pas dormez, braves gens, veille sur vous.
Ensuite arrive Mitterrand et les patrons, c'était en 1999.
Alors ça a été un best-seller que j'ai fait avec mon ami Philippe Simoneau, sous forme d'interview. J'ai eu la chance de retrouver tout le script de toutes mes relations, mes réunions, en tête-à-tête généralement, avec Mitterrand. Il m'a reçu, par exemple, en 82, 7 fois en tête-à-tête, plus d'innombrables fois en groupe, mais 7 fois en tête-à-tête, réunion qui durait jamais moins d'une heure, quelquefois même 2 heures, et en sortant, je faisais tout de suite un compte-rendu très important, et j'avais conservé tous ces comptes-rendus. Alors, c'est ces comptes-rendus, donc, qui donnent à ce livre un caractère un peu historique.
La moyenne entreprise, championne de la croissance durable, c'est votre dernier ouvrage.
C'est ça, c'est mon livre de 2002, qui explique qu'il y a la catégorie la plus importante des entreprises françaises, c'est la moyenne d'entreprise qui n'a aucune existence légale en France, qui existe en Allemagne sous la forme du Mittelstand et qui en France n'existe pas. On a fait une catégorie bâtarde, PME, qui reprend une toute petite partie des moyennes. La moyenne entreprise n'existe pas, il a une parfaite inexistence légale. Et je traite également ce livre un peu avec un certain humour, et je dis la moyenne entreprise, elle est comme les insectes que mon professeur de sciences naturelles me demandait d'apporter au collège le lundi matin. On lui donnait l'insecte, il cherchait son nom dans les livres, et quand il trouvait pas le nom scientifique de l'insecte, il nous le rendait en disant « cet insecte n'existe pas ». Il en est de même pour la moyenne d'entreprise, elle n'existe pas en France, alors que c'est la catégorie la plus importante, qui utilise le plus de personnel, qui exporte le plus, qui investit le plus, c'est la catégorie numéro 1 des 4 catégories d'entreprise, TPE, PE, ME, GE. Et elle est inconnue. Il y a quand même un mystère de l'économie française là-dedans, que j'ai essayé de lever dans ce livre, La moyenne d'entreprise, qui connaît par bonheur un assez bon succès.
Donc une suite à ce livre, puisque la moyenne entreprise n'existe pas encore.
Eh bien écoutez, là j'explique bien ce qu'elle est. N'est-ce pas ? Oh, bon, on a toujours un livre en préparation.
Voilà, c'est ça.
Comme tous les membres de l'Académie, je pense.
Donc, un champion de l'action et de la création, combien de créations alors, à votre actif ?
Entre mes innovations, créations, inventions, enfin, qui ont jailli un petit peu à toutes les époques, il y en a beaucoup. Si vous voulez... J'ai toujours fabriqué le siège dans lequel je me suis assis. Je suis un fabricant de fauteuils, en quelque sorte. Sauf deux exceptions. J'ai été deux fois Bernard l'ermite. Je suis rentré dans des coquilles que je n'avais pas fabriquées. Une fois au CNPF, MEDEF aujourd'hui, pendant 5 ans. Et depuis 89, à l'Institut de France. Donc, je suis très fier, n'est-ce pas, d'occuper un fauteuil que je n'ai pas fabriqué moi-même et qui existe depuis bien, bien longtemps. Tous les autres fauteuils, toutes mes autres associations, toutes ont été créées par moi. Alors d'abord.
Dresser une liste exhaustive, celles qui vous tiennent le plus à cœur.
Bon, bah, écoutez, en 52, j'ai créé quand même l'entreprise Radial avec mon frère, qui est dirigé par mon fils, qui est une moyenne entreprise
de composants électroniques.
Donc 2000 personnes, nous sommes le fabricant numéro 2 dans le monde de connecteurs coaxiaux pour électronique, une entreprise moyenne performante, high-tech comme on dit. J'ai créé une devise qui a beaucoup de succès depuis bien longtemps, Vite et bien, dont nous avons parlé. J'ai créé la lettre Les 4 vérités, nous avons inventé les horaires flexibles, les horaires variables dont nous avons déjà parlé un petit peu, j'ai créé le mouvement éthique dont nous avons parlé, j'ai lancé cette moyenne entreprise inconnue dont nous avons parlé, et puis j'ai lancé une théorie qui a beaucoup pris et dont on parle encore beaucoup maintenant, le décitant. Je demande aux chefs d'entreprise de consacrer le dixième de leur temps de travail à des causes d'intérêt général, national ou sociétal. Ça s'appelle le décitant. Et le décitant a connu beaucoup de succès. Je vois que beaucoup de chefs d'entreprise en France et maintenant même à l'étranger pratiquent spontanément le décitant que j'ai inventé. Bon, j'ai inventé moi aussi les flexibilités sociales, puisqu'on n'osait pas employer cette expression et qu'on m'en a beaucoup voulu d'avoir inventé ce mot. J'ai inventé le transpolitisme, puisque quand je dis que les chefs, les entreprises sont transpolitiques parce que les gouvernements passent, les entreprises restent, n'est-ce pas ? Je crois avoir participé à la réhabilitation un peu historique de l'image de l'entreprise aux yeux de nos concitoyens dans cette période justement 80-86 où cette image était bien écornée, n'est-ce pas ? Et puis on a parlé de l'association Jeunesse Entreprise, j'avais créé un comité d'expansion à partir de zéro pour la Seine-Saint-Denis qui est un département un peu déshérité, n'est-ce pas, qu'il a fallu remonter. J'ai lancé un peu cette expression l'humour dans le sérieux dont nous venons de parler, et puis j'ai été donc, vous le savez, le premier créateur d'entreprise sous la coupole. Et puis j'ai lancé le plus récemment cette association des moyennes entreprises patrimoniales, ASMEP, à partir de zéro également. Oui, ce sont toujours des créations ex nihilo, dont je suis assez fier.
Et à côté de cette part créative et de ces actions, vous avez toujours conservé une part importante à la réflexion et à la poésie et aux arts initiés par votre père. Et donc, justement, vous allez nous faire le plaisir de lire un poème de Sully Prudhomme. Alors, pourquoi cette sensibilité à Sully Prudhomme et à ses vers ?
Écoutez, dans ma jeunesse, tous les garçons de mon âge apprenaient par cœur les fables de La Fontaine et les poésies de Sully Prudhomme. Aujourd'hui, bien oublié, malheureusement. Et quelques-unes me reviennent comme ça à l'esprit. Et vous savez, quand on a 10 ans ou 11 ans, on est très frappé par les poésies qu'on apprend, surtout s'il y a des mots qu'on ne comprend pas, ce qui est le cas d'ailleurs dans cette poésie de Sully Prudhomme, qui est retirée d'un de ses 4 recueils de poésie et qui s'appelle « Un songe ».
Nous vous écoutons.
« Le laboureur m'a dit en songe, fais ton pain, je ne te nourris plus, gratte la terre et sème. Le tisserand m'a dit, fais tes habits toi-même. Et le maçon m'a dit, prends la truelle en main. Et seul, abandonné du genre humain dont je traînais partout l'implacable anathème, quand j'implorais du ciel une pitié suprême, je trouvais des lions debout sur mon chemin. J'ouvris les yeux, doutant si l'aube était réelle. De hardis compagnons sifflaient sur leur échelle, les métiers bourdonnaient, les champs étaient semés. Je connus mon bonheur et qu'au monde où nous sommes, nul ne peut se vanter de se passer des hommes et depuis ce jour-là, je les ai tous aimés. »
Ah, voilà, une poésie qui vous ressemble et que vous avez faite vôtre.
Et alors oui, quand on a 10 ans et qu'on se demande ce que c'est qu'un anathème, on cherche dans le dictionnaire et on se demande pourquoi il y a des lions dans les chemins qu'on ne voyait encore pas à l'époque à la télévision.
Merci Yvon Gattaz pour ce parcours passé en compagnie des auditeurs de Canal Académie.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.